Mais où Mouret se révélait comme un maître sans rival, c'était dans l'aménagement intérieur des magasins. Il posait en loi que pas un coin du Bonheur des Dames ne devait rester désert. Partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie. Car la vie, disait-il, attire la vie, enfante et pullule. De cette loi, il tirait toutes sortes d'applications. D'abord, on devait s'écraser pour entrer. Il fallait que, de la rue, on crût à une émeute. Et il obtenait cet écrasement en mettant sous la porte les soldes, des casiers et des corbeilles débordant d'articles à vil prix. Si bien que le menu peuple s'amassait, barrait le seuil, faisait penser que les magasins craquaient de monde lorsque souvent ils n'étaient qu'à demi plein. Ensuite, le long des galeries, il avait l'art de dissimuler les rayons qui chômaient, par exemple les châles en été et les indiennes en hiver. Il les entourait de rayons vivants, les noyait dans du vacarme. Lui seul avait encore imaginé de placer au deuxième étage les comptoirs des tapis et des meubles, des comptoirs où les clientes étaient plus rares, et dont la présence au rez-de-chaussée aurait creusé des trous, vides et froids. S'il en avait découvert le moyen, il aurait fait passer la rue au travers de sa maison. Justement, Mouret se trouvait en proie à une crise d'inspiration. Le samedi soir, comme il donnait un dernier coup d'œil aux préparatifs de la grande vente du lundi, dont on s'occupait depuis un mois, il avait eu la conscience soudaine que le classement des rayons adopté par lui était inepte. C'était pourtant un classement d'une logique absolue. Les tissus d'un côté, les objets confectionnés de l'autre. Un ordre intelligent qui devait permettre aux clientes de se diriger elles-mêmes. Il avait rêvé cet ordre autrefois dans le fouillis de l'étroite boutique de Madame Edouin. Et voilà qu'il se sentait ébranlé le jour où il le réalisait. Brusquement, il s'était écrié qu'il fallait lui casser tout ça. On avait 48 heures. Il s'agissait de déménager une partie des magasins. Le personnel, effaré, bousculé, avait dû passer les deux nuits et la journée entière du dimanche au milieu d'un gâchis épouvantable. Même le lundi matin, une heure avant l'ouverture, des marchandises ne se trouvaient pas encore en place. Certainement, le patron devenait fou, personne ne comprenait, c'était une consternation générale. « Allons, dépêchons !» criait Mouret, avec la tranquille assurance de son génie. « Voici encore des costumes qu'il me faut porter là-haut. » « Et le Japon, est-il installé sur le palier central ? Un dernier effort, mes enfants, vous verrez la vente tout à l'heure. » Bourdoncle, lui aussi, était là depuis le petit jour. Pas plus que les autres, il ne comprenait, et ses regards suivaient le directeur d'un air d'inquiétude. Il n'osait lui poser des questions, sachant de quelle manière on était reçu dans ces moments de crise. Pourtant, il se décida. Il demanda doucement. Est-ce qu'il était bien nécessaire de tout bouleverser ainsi, à la veille de notre exposition ? D'abord, Mouret haussa les épaules sans répondre. Puis, comme l'autre se permit d'insister, il éclata. « Pour que les clientes se tassent toutes dans le même coin, n'est-ce pas ? Une jolie idée de géomètre que j'avais eue là. Je ne m'en serais jamais consolée. » Comprenez donc que je localisais la foule. Une femme entrait, allait droit où elle voulait aller, passait du jupon à la robe, de la robe au manteau, puis se retirait, sans même s'être un peu perdue. Pas une n'aurait seulement vu nos magasins. « Mais, fit remarquer Bourdoncle, maintenant que vous avez tout brouillé et tout jeté aux quatre coins, les employés useront leurs jambes à conduire les acheteuses de rayon en rayon. » Mouret eut un geste superbe. « Ce que je m'en fiche. Ils sont jeunes, ça les fera grandir. Et tant mieux s'ils se promènent. Ils auront l'air plus nombreux. Ils augmenteront la foule. Qu'on s'écrase, tout ira bien. »